Peut-être qu'on peut passer la parole au public si des questions il y a.
C'était un petit peu lourd, hein? Je suis d'accord, c'était un petit peu lourd.
Est-ce qu'éventuellement vous pourriez développer un tout petit peu, Gabi, sur la question du jugement de ces destructions de guerre? Pour vous, quelles seront les pistes pour faire droit aux réparations pour les Ukrainiens? Quel est votre avis sur le sujet?
À mon avis, il y a déjà une cour qui s'en occupe, qui collecte des preuves et qui va peut-être porter plainte, mais ça, c'est, je pense, ça se place en Allemagne, cette cour-là. Pour la cour de La Haye, il faut bien sûr, et c'est ce qu'on dit aux collègues de l'Ukraine, documenter, documenter, documenter pour avoir des preuves, parce qu'il faudra des preuves. Et pas juste une histoire à raconter. Et c'est pour cela aussi que notre collègue qui est directeur du musée juif à Tchernowitz, et il nous a dit, bon, la guerre n'est pas encore chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit mettre nos objets du musée juif dans un dépôt centralisé où c'est peut-être plus en sécurité? Et non, on n'a dit pas du tout, surtout disperser, mettre dans les caves dans plusieurs lieux. Et sortir et photographier tout de suite. Hein, parce que Tchernowitz, c'est plein de belles architectures du 19e, début du 20e siècle, comme aussi Lemberg, tous les deux étaient de la Galicie, donc autrichiens. Alors, comment dire, l'action actuelle est préparative pour quelque chose de juridique qui peut suivre. Et si on ne collecte pas, on ne peut pas prouver. Et c'est pour cela aussi qu'il y a eu un appel des Blue Shield. C'est une association qui met en route et qui met en exergue la valeur de la Convention de La Haye de 1954 aussi, pour la protection des biens culturels en cas de guerre conventionnelle, de mettre les Blue Shield. Et ça, j'ai trouvé naïve. Et c'est pour ça que j'avais conseillé de ne pas les mettre. Mais leur politique, c'était de mettre les panneaux pour prouver après qu'il y avait un panneau dessus et que les soldats avaient tiré quand même, pour prouver que c'était un crime. Je trouve ça pas vraiment très très utile, mais bien sûr, chacun choisit ses moyens. Et on peut toujours avoir l'espoir qu'ils vont pas tirer sur, mais ils ont déjà tiré sur tellement, hein, à Tchernowitz, pas, mais à Tcharkiv et Kiev. Donc tout cela, bien sûr, c'est une catastrophe humanitaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, mais il y a aussi des biens culturels qui ont été détruits. Je pense que le but est bien de détruire la nation à travers la destruction de la culture, mais là on assiste à l'inverse, c'est-à-dire que la destruction rend encore plus forte l'union. Et c'est comme ça que la communauté de pertes, c'est une variante de la communauté patrimoniale d'ailleurs, hein. On peut s'associer quand on veut. Cette communauté de pertes est ouverte socialement comme temporellement, et elle peut être très très forte, hein, et pas nécessairement menée à la reconstruction de tout, c'est-à-dire que rien ne reste perdu, mais on regagne la chose. Mais on peut aussi, dans le deuil et dans le travail après, dans une reconstruction possible, prendre en compte la destruction et pas la rendre invisible. C'est ce que je pense.
Oui, merci pour votre réponse. Gabi.
Bonjour. Est-ce que vous suggérez de regrouper des communautés au niveau international quand elles ont un même patrimoine culturel immatériel? Je m'explique. Il y a les pêcheries, par exemple, les communautés de pêcheurs en Méditerranée. Espagnoles et françaises ont exactement les mêmes fonctions, ont des textes fondateurs à peu près identiques, Et il serait facile de les considérer comme une seule et même communauté, ce qui rejoindrait ce que vous aviez écrit tout à l'heure, derrière vous, cette notion de personne qui peut appartenir à une communauté de choix, même à l'endroit où il n'est pas.
Si jamais les pêcheurs dans ces trois pays se mettent ensemble, oui, c'est pas moi qui vais le faire, mais ça sera eux, hein, et ça serait une communauté. En effet, construite à travers les pays par justement la professionnalité et la passion pour la pêche. Ça se fait déjà, je pense. Il y a comme ça des unions internationales d'amateurs de beaucoup de choses. Alors peut-être déjà aussi pour attraper des poissons. Mais je propose aussi de poser les questions à Ambre, parce que je trouve que cette histoire du patrimoine submergé, c'est tellement dramatique, aussi les images étaient fortes. On voudrait autant que ce jugement aurait été autre, mais même s'il l'avait été, est-ce que ça aurait pu empêcher le lac ?
Non, c'était trop tard. Le barrage était déjà construit, à mon avis. En fait, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas la capacité d'ordonner une mesure précise. Elle n'aurait pas pu ordonner de détruire le barrage. Elle aurait pu proposer... En fait, elle aurait pu constater la violation et proposer le choix à l'État turc de réparer la violation de la manière de son choix. Donc aussi bien par le retrait du barrage ou par l'indemnisation. Et donc il y a fort à parier qu'ils auraient plutôt penché vers cette direction.
Pour poursuivre dans les mesures de réparation...
Oui, ça marche.
Dans les mesures de réparation, est-ce qu'ils auraient pu, alors au-delà de construire le barrage ou... indemniser financièrement, accompagner tous les actes de conservation et de réinstallation, financer en fait ce déplacement et des monuments en fait. Et est-ce que la réparation peut se placer sur cet objet-là ?
En fait, quelle que soit la mesure de réparation, je pense que ça aurait de toute façon trouvé ses limites si on se place vraiment du point de vue de la conservation du patrimoine. Il y avait des difficultés techniques qui faisaient que c'était impossible de retirer et de démonter et de remonter certains éléments. Les grottes troglodytes, c'était pas possible. Donc, on n'aurait pas pu, de toute façon, trouver une possibilité de sortir de ce dilemme. Alors, c'est pas symbolique dans la mesure où elle peut, si elle avait constaté la violation, il y aurait eu au moins une indemnisation si la Turquie avait choisi de faire ça. Mais c'est en effet symbolique. Après, pour la contrainte, lorsque il y a une violation du droit qui est constatée, la commission des ministres se charge de suivre en fait la réparation du droit, la réparation de la violation plutôt. Et donc il y a un suivi, et dans les faits il y a peu d'États qui échappent à cette obligation de réparation.
Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, s'il y en a une. Non, alors pas nécessairement. Mais pour conclure cette journée, je tenais à remercier chacun des participants. Je pense que tout au long de la journée, on a beaucoup parlé de lieux des communs, mais on a évité, on a décortiqué certains lieux communs sans tomber dans le panneau. Merci à tous pour votre implication, pour votre participation pendant cette journée d'études. Ça a été une belle collaboration de la communauté, des élèves de l'ISP et de l'INP. Et puis merci aussi à tous les participants qui ont bien voulu nous rejoindre aujourd'hui, notamment vous, Gabi.
Et merci de m'avoir invité. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses.
Est-ce que Vincent voulait dire un tout petit mot conclusif ?
Non, merci Jean-Roch, mais non, on ne va pas conclure parce que, d'une part, parce que le sujet n'est pas épuisé, donc conclure, ce serait effectivement clore. Donc, on se disait tout à l'heure avec quelques intervenants qu'on va voir effectivement pour essayer de prolonger cette réflexion pour la porter dans le débat public. C'est-à-dire que vous avez vu qu'au long de la journée, il y a quand même des interventions, je dirais, relativement très diversifiées et puis qui ont vraiment mis en lumière cette question des communs dans le champ de la culture et dans le champ du patrimoine. Donc c'était aussi l'objet de cette journée, c'était de faire un pas de côté à travers, tout au moins dans la pensée des juristes, les communs sont un territoire très délimité. Voilà. Donc l'idée, c'était aussi de démontrer que, ce sujet qui est souvent confisqué par les juristes et par les économistes, peut prendre appui, on prend pied également dans le domaine de la culture, du patrimoine, et donc on va essayer de voir sous quelle forme on peut prolonger la réflexion, et notamment pas peut-être par une publication, et cette fois-ci essayer de faire une publication, non pas je sais effectivement que ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre, et non pas effectivement de faire encore des articles scientifiques dans une publication qui ne sera lue que par ceux qui ont finalement écrit dedans. Si je caricature, vous voyez bien ce dont je parle. On s'auto-publie dans un milieu donné. Je connais bien, pour ça j'en parle sans difficulté. Mais c'est effectivement de poser, donc de quitter ce cercle effectivement où on reste en entre-soi pour essayer de porter cette question-là dans le débat public et peut-être effectivement par un petit ouvrage. Il y a les éditeurs, je dirais que. Qui parfois publie des petits ouvrages, des petits manifestes en quelque sorte sur une question d'actualité, et donc de voir comment est-ce que l'on passe effectivement de cette journée à une forme de publicisation de cette question sous une forme que je ne connais pas encore, mais on va y réfléchir pour poser ce débat, mais cette fois-ci en faire un débat public et non pas effectivement de rester dans l'entre-soi entre professionnels. En tout cas, je vous remercie tous et tous de votre présence aujourd'hui, et d'être restés jusqu'au bout, parce que c'est aussi la gageure, ce type de journée, c'est de voir l'érosion du public parfois. À 14h, on s'est dit, tiens, il y a moins de monde, à 16h, tiens, il y a encore moins de monde. Moi, j'ai le souvenir des colloques où on finit à 10 dans la salle, et encore 10 parfois, c'est même pire, je ne citerai pas d'exemple, mais j'ai des souvenirs assez cruels là-dessus. Donc là, il est quand même 17h30, on glisse vers 18h et vous êtes encore très nombreux, donc merci de votre présence. Et aussi, je parle peut-être au nom des intervenants qui ont été à la tribune, et donc d'Ambre et de Gabi pour cette dernière session, je dirais que de vos questions, parce que c'est toujours compliqué quand on est à la tribune, que le modérateur passe la parole à la salle et puis il y a un grand blanc, vous voyez, qui dure. Et puis, donc, il faut se dévouer. Donc, moi, j'étais prêt chaque fois. Donc, je n'ai pas eu à dégainer mes questions. Donc, merci, effectivement, d'avoir nourri le débat. Et c'était bien l'enjeu de cette journée, c'est-à-dire que d'avoir des formats courts, je n'ai pas là, des formats restreints plutôt, avec seulement deux intervenants par session, pour laisser le temps, justement, à chaque intervenant de dérouler son propos, et de laisser le temps à la discussion et au dialogue, et vous vous êtes saisi de ce moment de discussion et dialogue, et c'est, à mon avis, c'est tout ce qui a fait la richesse de cette journée. Donc, merci à vous, effectivement, aussi, de votre implication dans le suivi, dans vos prises de parole, et dans vos signes d'intérêt pour les questions qui ont été débattues, et rendez-vous pour d'autres tables rondes, pour d'autres journées d'études. Et donc, rendez-vous peut-être dans un an avec la promotion Michel Perrault, puisqu'on a convenu de... Et là, je sais que la balle est dans mon camp. Donc, je vais vous écrire très vite à ceux qui ont manifesté leur intention pour qu'on puisse reproduire, enfin, que vous puissiez, excusez-moi, reproduire ce format. Et ce sera a priori plutôt en février 2023, donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de mes nouvelles très vite. Merci à vous.